Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web graphite.net. On se retrouve pour continuer l'après-midi autour du cours WE01, Questionner le web, de l'Université de Technologie de Compiègne, dont le contenu est librement accessible sur librecours.net. Aujourd'hui et mercredi prochain, les étudiantes et les étudiants viennent présenter le résultat de la recherche du semestre, articulé autour de grandes problématiques reliées au web et plus généralement au numérique. Pour cette troisième émission de l'après-midi, je suis en direct en studio avec deux étudiants et étudiantes, Oriane et Mohamed. Bienvenue à vous.
Bonjour.
Et alors, au niveau du projet, vous avez notamment travaillé sur l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas, un sujet qui est très, très, très discuté en ce moment. Et vous avez choisi un article qui traite des mythes, généralement, de l'intelligence artificielle. Mais je ne spoil pas plus et je vous laisse la main pour votre émission.
Nicolas Sabouret, chercheur en intelligence artificielle depuis plus de 25 ans, nous invite aujourd'hui à déconstruire les idées reçues sur l'IA. Entre métaphores du quotidien et références à de grands penseurs, il nous rappelle une chose essentielle. Une machine qui calcule, ce n'est pas une machine qui pense. Alors que le grand public confond souvent intelligence artificielle et intelligence humaine, il trace avec pédagogie la frontière entre les deux, une frontière bien plus profonde qu'il n'y paraît. Dans le cadre de ce projet,
l'intelligence artificielle ne vit pas dans le même monde que nous. Elle vit dans le monde numérique, le monde où tout est calcul, des additions, des multiplications et rien d'autre. Un chercheur célèbre, Edsger Dijkstra, a résumé ça avec une phrase amusante. Il dit « Se demander si un ordinateur peut penser, c'est aussi absurde que de se demander si un sous-marin peut nager. » Prenez le temps de réfléchir à cette phrase. Un sous-marin, ça va sous l'eau, et ça se débrouille même très bien sous l'eau. Mais ça nage pas. Ça sous-marine. Un ordinateur, c'est pareil. Ça ne pense pas, ça calcule.
On vient donc d'écouter Nicolas Sabouret, chercheur en intelligence artificielle depuis plus de 25 ans, qui n'est pas évidemment le seul à travailler sur ce sujet qui est très intéressant, notamment de nos jours. Et donc, dans le cadre de ce projet, une question centrale est posée. Une intelligence artificielle peut-elle réellement apprendre et créer tel un être humain? Ou est-ce un mythe? Pour rejoindre à cette question, le projet s'appuie sur un texte publié par Hubert Guillot en 2024. L'auteur est journaliste, spécialiste des systèmes techniques et numériques. Il a travaillé pour différents médias, dont Interactu.net, pendant plus de 20 ans. C'est cette fois pour le média Della qu'il rédige cet article. Della s'intéresse à ce qu'on appelle la société de calcul, autrement dit, au monde du numérique et à ses impacts. C'est dans ce contexte que paraît le 2 octobre 2024 un article intitulé « Les mythes de l'IA ». Guillot y reprend les travaux d'Eric Salvaggio, chercheur en sciences humaines et IA à l'Université de Cambridge. Cet article s'intéresse aux discours populaires autour de l'intelligence artificielle. Ces discours produisent des mythes qui façonnent une compréhension collective, souvent éloignée de ce qu'est vraiment l'IA. Un mythe, selon Guillot, c'est une métaphore simple et convaincante qui réduit la complexité des transformations à l'œuvre. Parmi les mythes analysés, l'un retient particulièrement notre attention, le mythe de l'intelligence. Il entretient une confusion entre le fait que l'IA a été conçue en s'inspirant de la pensée humaine et la capacité réelle à penser. Ce mythe se décline en deux sous-mythes, celui de l'apprentissage et celui de la créativité. Premier mythe, l'apprentissage. On imagine souvent qu'une IA, comme son nom le suggère, est capable de comprendre et d'apprendre librement, un peu comme un être humain. En réalité, une IA est simplement le produit de l'analyse de données. Des données collectées non pas par elles-mêmes, mais par des entreprises à des fins lucratives. Deuxième mythe, la créativité. L'IA produit des résultats qui semblent créatifs, mais elle ne fait que suivre des processus qui lui sont assignés. Lorsqu'on lui demande de concevoir une affiche, elle exécute une liste d'étapes, sans aucune réflexion créative derrière. Pour Guillaume, cela s'apparente davantage à une méthode de production qu'à une véritable inventivité. Ces mythes ne sont pas anodins, ils servent les intérêts économiques des grandes entreprises technologiques, dont le modèle repose sur l'exploitation massive des données personnelles, en faisant croire que les IA apprennent comme des humains, on minimise la valeur de ces données. Et on détourne l'attention des questions légales essentielles sur leur collecte. Comme le conclut Guillaume, le mythe de l'apprentissage permet surtout de minimiser la valeur des données sans lesquelles ces systèmes n'existeraient pas.
Dans cette deuxième partie, qui est une figuration d'un concept du cours, l'objectif est de comprendre la nature et le poids des données récoltées par les big tech. D'abord, il faut définir ce que l'on entend par big tech. Ce terme désigne les grandes entreprises du numérique qui dominent une grande partie des plateformes et des services en ligne. Les plus connues sont les GAFAM, donc c'est un acronyme qui comporte Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Leur modèle économique repose en grande partie sur la collecte, l'analyse et l'exploitation des données produites par leurs utilisateurs. Ces données ne servent pas seulement à rendre des services plus pratiques ou plus efficaces, elles permettent surtout de construire des profils d'utilisateurs. Par exemple, lorsque l'on voit une publicité sur Instagram, elle n'est pas choisie au hasard. Elle est ciblée en fonction de notre profil, de nos centres d'intérêt. Et le but est de retenir notre attention, de provoquer une interaction et donc de produire encore plus de données exploitables. L'enjeu économique est donc clair. Plus une plateforme collecte de données, plus elle peut créer des profils précis et plus ces profils permettent de gagner de l'argent en les revendant à d'autres entreprises. Les big tech ont donc intérêt à nous faire passer le plus de temps possible sur leurs services. Pour comprendre ces nouveaux comportements, le concept de la captologie peut être étudié. Conceptualisé notamment par Fogg en 1998, la captologie se définit comme l'étude de l'information et des technologies numériques comme outils de persuasion et de changement de comportement. Il ne s'agit pas ici de dire que Fogg aurait inventé toutes les techniques utilisées par les big tech, mais son travail permet de comprendre une évolution historique des comportements sur le web. Son modèle, The Behavior Model, se base sur trois éléments nécessaires pour faire naître un comportement chez un utilisateur. Le premier, ça va être la motivation, c'est-à-dire le sentiment que va provoquer ce nouveau comportement, que ce soit le plaisir, la déception, l'espoir. Et donc le deuxième, ça va être la simplicité, c'est-à-dire la simplicité d'intégrer cette action à une routine. Et enfin, le dernier élément va être le déclencheur. Sur les plateformes numériques, cela se traduit très concrètement. Une notification, par exemple, va jouer le rôle de déclencheur puisqu'elle nous ramène vers l'application. Le défilement infini ou la lecture automatique rendent l'arrêt plus difficile. Même si l'utilisateur a l'impression d'être libre, l'interface est pensée pour maximiser le temps passé sur les applications et donc maximiser le nombre de données collectées. La collecte de données ne concerne pas seulement les informations que l'on donne volontairement comme un nom, un âge ou une photo de profil. Elle concerne aussi des éléments plus discrets comme le temps passé sur une page, la fréquence de connexion, la localisation ou encore le type de contenu consulté. Pris séparément, ces éléments sont parfois insignifiants, mais lorsqu'ils sont croisés en masse, ils permettent de classer les utilisateurs comme des profils très précis. L'enjeu n'est donc pas seulement technique, mais il est aussi économique et politique. Les plateformes se présentent comme pratiques innovantes ou intelligentes, mais derrière cette promesse, une question se pose. Jusqu'où acceptons-nous que nos comportements soient orientés pour produire des données? Et surtout, à qui profite cette opacité autour de leur collecte?
En mettant maintenant en perspective les mythes de l'IA et la notion de captologie, on peut offrir une nouvelle grille de lecture autour des IA génératives. On peut comprendre les mythes autour de l'IA comme des représentations inexactes, mais aussi comme des discours qui rendent acceptable un certain modèle économique. D'après Guillaume, les mythes autour de l'intelligence des IA reposent sur une confusion centrale. Les IA sont présentées comme si elles apprenaient et créaient à la manière des humains, alors qu'elles fonctionnent à partir de traitements statistiques appliqués à un très grand nombre de données. Pour l'auteur, cette distinction est essentielle car elle permet de déplacer la question. D'où viennent les données qui rendent son fonctionnement possible? Dire qu'une IA apprend donne l'impression qu'elle aurait naturellement besoin d'accéder à des textes et des images, comme un être humain aurait besoin de livres pour se former. Cette comparaison rend ainsi la collecte massive de données plus acceptable. Or, ces données proviennent aussi de publications, de photos, de localisations ou d'interactions numériques liées à des personnes qui n'ont pas pleinement conscience de participer à cette production. C'est ici que la réflexion sur l'usinage des données des Big Tech prolonge l'analyse de Guillaume. Des entreprises comme les GAFAM ont construit leur modèle économique sur les données personnelles de leurs utilisateurs. Avec le développement de l'IA générative, ces données deviennent aussi une matière première indispensable à l'entraînement de ces nouveaux modèles. Elles ne sont plus seulement un outil commercial, mais une condition de fonctionnement de ces nouvelles technologies. L'exemple de Meta illustre bien cette opacité. Sur sa politique de confidentialité, on peut lire, même si vous n'utilisez pas nos produits ou ne possédez pas de compte, nous pouvons tout de même traiter des informations vous concernant. La collecte dépasse ainsi le cadre du consentement évident. Si un ami poste une photo de vous sur Facebook, celle-ci peut être utilisée par Meta sans votre accord. L'IA générative devient alors une nouvelle source de revenus basée sur l'exploitation des données. Et plus il y a de profits, plus les big tech cherchent à étendre leur périmètre de collecte.
La captologie permet donc de comprendre comment la production de données est organisée. Les plateformes ne se contentent pas de recevoir passivement des informations, elles orientent nos comportements pour en produire davantage. En croisant la captologie, l'IA et l'économie des big tech, on comprend mieux ce que les mythes de l'IA rend invisible. L'IA générative est souvent présentée comme une machine qui apprend ou qui crée. Ce discours met l'accent sur les capacités supposées de la technologie, mais il détourne l'attention de ce qui la rend possible, c'est-à-dire le profilage des utilisateurs, l'orientation des comportements et l'exploitation massive de données produites en continu. Le problème n'est donc pas seulement de dire que l'IA ne pense pas comme un être humain, le problème est que cette comparaison cache les réalités économiques et politiques qui se trouvent derrière. Mettre en perspective Guillaume avec la captologie permet donc de montrer que les mythes autour de l'IA prolongent le modèle économique des Big Tech. Ces entreprises ont d'abord cherché à capter l'attention pour produire des données monnayables, notamment avec la publicité ciblée. Mais aujourd'hui, ces mêmes données servent aussi à entraîner et améliorer leur modèle d'IA. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si l'IA est intelligente. Il faut se demander à qui profite cette comparaison. En l'humanisant, l'IA, les discours dominants rendent moins visibles les intérêts économiques des entreprises qui la développent. C'est ce que Guillaume invite à interroger. Derrière le mythe d'une intelligence artificielle, il faut regarder les conditions concrètes de sa production.
Merci beaucoup Oriane et Mohamed pour votre présentation et votre réflexion très intéressante. C'est quand même un sac de nœuds très complexe l'IA et je trouve intéressant comme vous avez réussi à montrer que ces conditions concrètes de production sont relativement opaques et que derrière les discours il y a des très très grandes questions qui se posent. En parlant de questions, on va attendre peut-être le temps de passer une musique, voir si les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent en salle de TD ont des questions à faire remonter. Vous avez choisi une musique à passer, vous nous dites ce que vous avez choisi, vous vous rappelez ?
C'est Drake.
Ouais. C'est quoi le titre ? On le dira, attends, je l'ai sous la main, c'est When to Say When.
When to Say When,
ça m'a choqué. Et c'est parti, on se retrouve dans 3-4 minutes.
Hey, 33 years, I gave that to the game. 33 mil, I say that for the rain. 500 weeks, I fill the charts with my pain. 500 mil and I fall back in the six. Finally give you niggas the space you need to exist. Michael Jackson shit, but the palace is not for kids. Still women saying it's childish the way we live. Brought a few W's to the six. Baby mama fluke, but I love her for who she is. Baby Wayne and Tez responsible for this shit. Half the time I question my consciousness in this shit. Other times I question if compliments are legit. Full time I'm out here confident as a bitch. Trying to make good on the promises that I give. Trying to make sure my accomplices are legit. Register the business in my brother's name. 3500 in a pocket that should cover things.
certified lover man, trapping out the motherland. Always move right, so my watch is on the other hand. She could try and play it down now, but she was a fan. People wanna know what's in my pockets, they don't understand. My assistant always finding Percocet and rubber bands. No, my mom might not wanna hear how I discover plans. Word to Sandra Graham, no one love you like your mother can. I watch Michael Rubin win a million off a couple hands. I decide what to see next, like it's on demand. I decide what to be next, like I'm switching plans. I'ma tell you what you feel next, like the weatherman. I will split heads and break necks for my little man. Six God praying hands like I'm a religious man, but I'm just a sicker man.
2:30, baby, won't you meet me by the bean? Too early, maybe later, you could show me things. You know what it is whenever I visit Windy City, she blowing me kisses, no. 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight?
Hey. Truck to the plane, to the truck, truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit. Elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone, what numbers do I still have? Who do I know from the past? Hit one, she say she got a man. Hit another one, it goes green. Must've changed foes on the team. Remember when you let me in between? That was 2017, all good. Each other look around, find one to see my type. Damn, my dog, and he know what I like. He done found me plenty in my life. Problem is, I meet a girl tonight. Then I go and treat her too nice. Galleria credit card swipes. I don't even know if she a wife. But I do know one thing, no. Women, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, I'll sit my drunk ass on that runway, on this one way.
2:30, baby, won't you meet me by the bean? Too early, maybe later, you could show me things. You know what it is whenever I visit Windy City. She blowing me kisses, no. 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight?
Et de retour sur Graphite 94.9 pour terminer cette émission avec, avec vous, Mohamed et Oriane. Vous nous avez parlé donc des mythes autour de l'intelligence artificielle, du mythe que l'IA quelque part apprendrait comme un humain, de tout ce qu'entoure en fait l'humanisation de l'IA, notamment pour justifier le fait que bah, il aurait besoin d'avoir une grande quantité de données. Et vous nous avez parlé aussi des mécanismes qui permettent de récupérer ces données. Mais du coup, la question que je me posais, c'est pour quelles raisons est-ce que les IA auraient besoin de récolter autant de données et d'avoir autant de mythification pour faire accepter ça? Et la question un peu parallèle, c'est est-ce qu'il y a des endroits où vous pensez que c'est... pas justifié de récolter autant de données, ou pour le dire autrement, est-ce qu'on a raison de penser, on a des raisons de penser que plus il y a de données, mieux c'est tout le temps pour les IA. On peut prendre un bout, un l'autre.
D'accord. Bah, du coup, pour répondre à votre question, avec tout ce qui est IA, avec le principe des réseaux de neurones, on sait qu'aujourd'hui que les IA ont besoin massivement de données pour pouvoir se développer, s'améliorer. Et donc, si on raisonne de la manière... supposons qu'on n'a pas de données ou on a très peu de données, on pourrait se dire que, logiquement, actuellement, l'évolution de l'IA ne serait pas à ce niveau-là. Et donc, ces données leur servent d'abord à eux-mêmes pour pouvoir se développer et après lancer une sorte de profilage pour pouvoir mieux servir leurs propres intérêts. Je vais laisser la parole à...
Moi, je n'ai pas forcément d'avis sur dans quel domaine c'est une bonne chose ou pas d'avoir énormément de données, parce qu'en réalité, c'est aussi des données personnelles, et est-ce qu'elles sont forcément bien utilisées, par exemple, pour répondre à un texto, si on met, on demande à ChatGPT de répondre au texto à notre place, est-ce que c'est forcément quelque chose de pertinent? C'est un débat à avoir et je n'ai pas forcément d'avis dessus, mais je pense que les IA, c'est aussi quelque chose qui... Bah, y a plusieurs types d'IA qui sont entraînés sur des sujets bien différents les uns des autres et qui ont bah, du coup entre guillemets, une aide à apporter bah, aux personnes dans leur quotidien pour entre guillemets, simplifier des tâches.
Merci pour votre réponse. Peut-être qu'un un élément de réflexion que je pourrais proposer aussi, c'est le fait que les IA puissent, par exemple, être très personnalisées et dire bah, plus on a de données, plus elles peuvent s'adapter à ce que les personnes ont vraiment besoin ou bien leur simplifier la vie parce qu'elles connaissent leurs habitudes. Que ce soit vrai ou pas, on peut s'interroger sur le fait que, bah, mettons qu'une IA me propose un truc et que je trouve ça super, bah, si elle ne me l'avait pas proposé, peut-être que c'est un autre truc que j'aurais aussi trouvé super. Et du coup, c'est pas pour dire l'un ou l'autre c'est bien, mais que finalement l'IA, elle va aussi prendre une voie parmi d'autres qui existeraient et qui seraient peut-être bien aussi. Et en W1, justement, on s'interroge sur est-ce que c'est toujours un peu le même genre de voie ou est-ce que la méthode comme ça de calcul propre aux IA produit des effets qui se ressemblent ou non. Mais on va du coup s'arrêter là, mais ça peut être un élément de réflexion aussi pour celles et ceux qui nous écoutent. En plus de votre intervention, merci encore Oriane et Mohamed pour ce travail. Et puis on se retrouve encore là dans un quart d'heure, 20 minutes pour continuer. La suite de cet après-midi consacré à l'UVW01. Bon après-midi à vous, salut.
Bon après-midi, au revoir.